enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Eh bien, ce matin, nous sommes là pour célébrer la Pâque. Et je me réjouis de ce que dans la Bible, il n'est pas parlé du lapin, ni des œufs. D'ailleurs, j'ai jamais compris le rapport entre les œufs et le lapin. À Noël, on nous parle du Père Noël. Et à Pâques, on nous parle des lapins. J'ai une bonne nouvelle, Pâques, c'est autre chose. Tout à l'heure, avant de venir dans l'église, Christian m'a chanté un chant. Il chantait « Mon beau lapin, roi des prairies, que j'aime ta fourrure. » Eh bien non, le Seigneur est vivant, il est ressuscité et c'est pourquoi nous sommes ici ce matin pour le célébrer. Mon thème sera une vie nouvelle. Premièrement, pour introduire le sujet, nous ferons un parallèle entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, qui toutes les deux nous parlent d'un passage. Deuxièmement, nous considérerons ce que nous sommes en Christ, une nouvelle créature. Et troisièmement, nous verrons que la nouvelle créature, de par sa liberté, est confrontée, un, à des choix, deux, elle demande des soins. En conséquence des choix et des soins apportés, eh bien, au travers de cette nouvelle créature, le ressuscité se manifeste. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17. Cependant, Jésus mourra 6 heures plus tard, et c'est exactement à 15 heures qu'il est mort. Que se passait-il à 15 heures? À 15 heures, dans le temple de Jérusalem, était offert l'agneau expiatoire pour le pardon des péchés. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Rien n'est laissé au hasard. Notre agneau, l'agneau de Dieu, meurt à 15 heures. Pendant ce temps-là, dans le temple, le grand prêtre sacrifie l'agneau pour l'expiation du péché. Il est l'agneau qui est mort pour toi et pour moi. Que s'est-il passé pour Israël? Lorsque nous regardons l'intervention de Dieu et la Pâque juive, nous nous rendons compte que les Hébreux vont être amenés dans une vie nouvelle. Ils vont passer de la mort, de l'esclavage, de l'extermination à la liberté et à la vie. Écoutez bien, alors que j'y réfléchissais ces jours, c'est devenu tellement évident à mes yeux. Ils n'avaient pas de terre. Ils n'avaient pas de pays. Ils n'avaient plus d'identité nationale. Dieu va au milieu des Égyptiens où ils étaient esclaves, où ils allaient être réduits à disparaître. Par extermination ou assimilation, Dieu va les arracher à cela pour leur donner un objectif, une terre, un pays et une identité nationale. Est-ce que cela ne vous rappelle rien? L'histoire moderne d'Israël et contemporaine me rappelle qu'Israël vient, il y a peu d'années, de retrouver une terre, d'avoir une identité nationale et de ressusciter littéralement en tant que peuple. Lorsqu'ils sortirent d'Égypte, va ressusciter un peuple que l'attendait un pays promis. Lorsqu'en 1948, Ben Gourion proclamera l'État d'Israël, et ressusciter un peuple. Écoutez bien, sa langue était une langue morte, l'hébreu. En 200 à peu près après Jésus-Christ, on n'a plus parlé l'hébreu. L'hébreu a totalement disparu. Et voilà que des hommes comme Herzl, et beaucoup ignorent qu'avec Herzl se trouvait un pasteur, et que ce pasteur lui a ouvert la porte au niveau de beaucoup d'ambassades dans le monde dans lesquelles Herzl va pouvoir venir et de manière prophétique inviter les Juifs à retourner en Israël. D'ailleurs aujourd'hui, Herzl en Israël est appelé le prophète moderne d'Israël. Il ira de synagogue en synagogue, prêchant aux Juifs de retourner en Palestine, car bientôt viendra une destruction massive. Il ne sera qu'entendu par quelques-uns à cette période-là. Se trouvera également, eh bien, un instituteur qui, lui, touché par le message de retour, eh bien, se disait, il faut que nous ayons à nouveau une langue qui nous soit propre. Et il ressuscitera l'hébreu. L'hébreu était une langue morte pendant plus de 1700 ou 1800 années. Aujourd'hui, elle est la langue officielle en Israël. Bien-aimé ce matin. Lorsque nous pensons à l'histoire d'Israël en Égypte, nous nous disons, c'est loin de nous, ça. Mais si vous réfléchissez à l'histoire moderne d'Israël, qu'est-ce que c'est proche de nous? Lorsque je suis là-bas, on me dit que de partout maintenant, on émigre à nouveau en Israël, en particulier aujourd'hui de France. Les Juifs rentrent chez eux. Il retourne. Un jour, j'ai demandé à ma guide, « Pourquoi tu es retourné en Israël ?» Elle me dit, « Je ne peux pas te l'expliquer. C'est comme les oiseaux migrateurs qui ont l'instinct de la migration et du retour vers l'endroit où ils se reproduisent de la même manière. J'ai le sentiment qu'il faut que je rentre à la maison. » Et c'est là-bas que commence une autre vie. Israël sort et devient un peuple libre. Que fait Jésus? Jésus, l'agneau de Dieu, meurt pour mes péchés, pour tes péchés. Il nous épargne la mort éternelle et nous offre une vie nouvelle. Mon frère, ma sœur, il t'offre une nouvelle vie. Il est en train de se former un peuple. La Bible me dit qu'il se forme une nation sainte. L'Église est un peuple mis à part et béni soit Dieu de ce que l'Église ne se résume pas à nous ici. À Mulhouse, il y a d'autres membres de l'Église de Jésus-Christ. En France, d'autres membres. Dans le monde entier, nous faisons partie de ce peuple qui a un royaume et une espérance. Israël n'avait plus d'identité, Israël n'avait plus de pays, Israël n'avait plus de terre. Cependant, le voyage entre l'Égypte, la mer Rouge et le pays promis devait durer 11 jours. 11 jours. Ils arrivent à Kadesh Barnéa, envoient les espions reviennent. Le rapport des espions fait peur. Sur 12 espions, 10 sont négatifs, 2 sont positifs. Que fait le peuple? Il écoute ce qui est négatif. Conséquence, vous n'entrerez pas dans le pays que j'ai juré de donner à vos pères. Seuls Josué et Caleb entreront, mais cette génération n'entrera pas. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire, et je suis convaincu, que bien des chrétiens n'entrent pas dans l'héritage que Dieu leur a proposé, à cause de leurs doutes et de leur incrédulité. Bien des croyants tournent dans un désert, loin de ce que Dieu a prévu pour eux, à cause de leur peur. Comme le peuple, ils croiront plutôt ceux qui ont parlé négativement que ceux qui marchaient par la foi. Mon frère, ma sœur, tu dois entrer dans la vie nouvelle. Une génération n'entrera pas. Combien de fois n'ai-je pas entendu « Ah, mais avant de connaître le Seigneur, c'était plus simple. » Vous avez déjà entendu ça? Qu'est-ce qu'ont dit les Hébreux? Qu'ont dit les Hébreux? Quand ils murmurèrent, quand ils disent « Bah finalement, en Égypte, c'était quand même pas mal, on avait des oignons, on avait... » Enfin, franchement, pour des oignons. On dirait que les oignons leur ont fait oublier les coups qu'ils ont pris. Mais Faites voir le parallèle. Prenez du temps pour lire l'Ancienne Alliance. Prenez du temps pour lire l'histoire du peuple juif. Comparez-le à l'histoire de l'Église et vous vous direz, mais qu'est-ce que ça lui ressemble? Qu'est-ce que c'est similaire? Il y avait des râleurs du temps des Hébreux et du temps de Moïse. C'est une race qui s'est perpétuée. Les ralox. Nous murmurons, nous pleurnichons. Ah, mais avant, vous savez, c'était tellement bien. Ah, vous avez oublié votre mari qui vous trompait ou qui était alcoolique. Vous avez oublié tout ce qui... C'était tellement bien que ça, mais pourquoi vous êtes venu à Christ si c'était tellement bien que ça? Mon frère, ma sœur, je voudrais ce matin que nous vivions une vie nouvelle. Et j'aimerais te dire que Dieu a un projet pour toi. Est-ce que tu le crois? Souris à ton voisin, dis-lui, Dieu a un projet pour toi. Chers téléspectateurs, Dieu a un projet pour vous. Il vous propose d'entrer dans une vie nouvelle, un pays promis, vous redonner une dignité, de l'assurance. Il vaut la peine d'être suivi. Il vaut la peine d'être suivi. Dominique, il y a de l'espérance pour toi. Tout ce que tu as à me dire, c'est que la cravate est tordue, mais vas-y. Voilà. Vous voyez le problème des femmes? Moi, je m'évertue de lui expliquer l'histoire d'Israël. Son seul problème, c'est que ma cravate est tordue ce matin. Mais c'est pour cela que je l'aime. 11 jours pour aller dans le pays promis. 11 jours, c'est quoi par rapport à la vie qu'ils allaient passer? C'était rien! Frères et sœurs, qu'est-ce que 170 ans ou 80 ans en comparaison de l'éternité? C'est même pas 11 jours. Hello? Vater, orta sevetik ich nit. 78 ans, le 17 avril, il a 79. Hein. C'est rien! C'est rien! En comparaison de l'éternité, c'est rien! Si vous mettez d'un côté l'éternité, de l'autre côté 70 ans, c'est rien! Et pourtant, à cause de ces 70 ans, certains n'entreront pas. Mon frère, ma sœur, j'ai cette détermination intérieure de vouloir, le temps que Dieu me prête vie ici-bas, vivre pour lui la vie nouvelle qu'il me propose. Et j'y viens! De toute façon, c'est Pâques, normalement, votre priorité, c'est Jésus. C'est pas vrai? Donc, c'est pas le gigot, c'est pas les faillots. Non, j'en vois déjà qui regardent la montre, des dames là, ils regardent la montre. J'ai programmé mon fourneau pour, si j'avais su que c'est Samuel, je l'aurais mis pour 15 heures. Mais alors? Ah. Aujourd'hui, nous fêtons sa résurrection. Amen. Ne vous en faites pas, le gigot ressuscitera pas, il fichera pas le camp de votre fourneau. Il y sera. Ici, je réalise que la résurrection m'apporte une vie nouvelle. Comme elle a apporté la liberté et une vie nouvelle aux Hébreux. De nouvelles perspectives, une nouvelle espérance. Maintenant, Paul me dit, si quelqu'un est en Christ, et ce sera mon deuxième grand point, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte le privilège que nous avons? Un nouveau Samuel. Je vais le dire assez fort pour que Dominique l'entende. Un nouveau Samuel, Dominique. Et maintenant, je vais me faire plaisir à moi-même, une nouvelle Dominique. Nouveau! Ce que j'ai le sentiment que nous ne comprenons souvent pas, c'est ce terme « nouveau ». Je vois les croyants réagir et je réalise que les chrétiens ont le sentiment que lorsque Jésus est venu, les a lavés de leurs péchés, il n'est que venu pour améliorer la vieille nature. Lorsque la Bible me parle de nouveau, Dieu est en train de dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire permettez-moi de le redire, nouveau, nouveau, mon frère, ma sœur, nouveau. Il n'est pas en train de reparler d'une occasion retapée. Quand moi j'achète une voiture neuve, je veux une voiture neuve. J'en ai encore jamais eu, mais... La dernière, je l'ai vendue parce que chaque fois que je fermais une porte, les autres s'ouvraient. Quand je fermais les autres, celle-là s'ouvrait. Et j'en ai acheté une nouvelle, une plus jeune, elle a 11 ans. Eh ben, elle recommence à me faire la même chose. Hier, je ferme une porte, j'ai les trois autres qui s'ouvrent. C'est nouveau! Nouveau! C'est pas retapé! C'est pas amélioré! C'est nouveau! Mes amis téléspectateurs, nouveau! C'est comme les pubs, c'est nouveau! Tant que vous essayez de changer votre vieille nature, vous vous épuisez et vous n'atteindrez jamais l'objectif de Dieu. C'est une nouvelle création, un nouveau caractère qui maintenant possède la nature de Dieu. Si j'essaye de changer ma nature, j'y arrive pas. J'ai déjà essayé, d'autres ont essayé. Dominique, elle y a travaillé pendant 22 ans. Non, ce n'est pas possible. C'est une nouvelle créature. Waouh, quand j'ai découvert cela, j'ai dit, Seigneur, nouveau, nouveau. L'homme nouveau est l'homme dans lequel Christ se forme. Regardez dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ est mort, il eut un nouveau corps. Ce corps-là, c'était un corps glorifié. C'était plus le même. Il passait les murs. Ça serait pratique si on pouvait passer les murs, hein ? Quoique pour l'instant, le Seigneur ne nous le permet pas, heureusement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui peut dire amen à cela? Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, lorsque j'allais à l'école, j'avais toujours un problème sur mes pages d'écriture. C'est que régulièrement, je faisais des ratures. Alors je sais qu'ici, au milieu de nous, il y a des élèves bien disciplinés qui, eux, d'un seul coup, un seul, eh bien, faisaient leur page d'écriture sans tâches, ni rien de semblable. Moi, j'avais et des tâches et des rides. Et régulièrement, arrivé au bout de ma feuille, je me disais, c'est tellement moche que je voudrais vraiment pouvoir recommencer. Et à cette époque-là, je me suis rendu compte que il est possible de recommencer quand on est à l'école, comment ? Simplement en arrachant la feuille et en recommençant. Et puis, j'ai grandi et dans ma vie, il y a eu également des tâches. Il y a aussi eu des événements qui n'ont pas forcément toujours fait plaisir à ceux qui m'entouraient et qui ne m'ont pas forcément toujours rendu service. Mais à la différence avec l'école, il était impossible pour moi de recommencer. Je ne pouvais pas arracher la page de ma vie. Je ne pouvais pas changer les événements passés. Mes mauvais choix étaient faits, je les avais faits. Et je ne pouvais plus changer l'histoire. Et ce matin, peut-être que certains sont parmi nous et ils se disent « Mais moi, mon vieux, je suis exactement comme toi ». Lorsque je regarde dans le rétroviseur de ma vie, il y a bien des éléments que je ne ferai plus aujourd'hui, bien des choses que je changerai, bien des choses que j'orienterai différemment, bien des décisions que je ne prendrai plus aujourd'hui de la même manière. J'ai souffert de certaines de mes décisions, j'ai souffert de certaines orientations qui, à la base, ont trouvé un choix, et très souvent un choix qui était dicté par l'égoïsme, dicté par ma nature, nature pécheresse. C'est ce que je me suis dit pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai entendu parler d'un homme qui lui a donné sa vie afin que moi je puisse recommencer une vie nouvelle. Afin que moi je puisse tourner la page du passé et recommencer une feuille vierge. Vous pouvez repartir à zéro. Il est possible de recommencer à vivre avec cette certitude, cette assurance. Je suis maintenant une créature nouvelle. Mes amis, la Pâque a engendré quelque chose de nouveau. Permettez-moi de revenir à la Pâque juive, en hébreu Pessah, qui signifie passer au-dessus ou passer outre dans le sens d'épargner. Un peu d'histoire, je contracte l'histoire pour la plupart d'entre vous. Eh bien, vous avez lu votre Bible et vous n'êtes pas censé ignorer le récit. Cependant, si des amis devaient être là pour la première fois, eh bien, je voudrais vous rappeler quelques grands éléments. Israël se retrouve, eh bien, esclave en Égypte. 400 années ont passé. Et voilà que maintenant, la pression augmente sur eux. Les charges augmentent. Le pharaon ira même jusqu'à souhaiter la destruction de ce peuple, à le réduire pour le détruire. Vous savez, dernièrement encore, j'étais à Yad Vashem, à Jérusalem, le mémorial de la Shoah. On ne parle pas d'Holocauste là-bas. Pourquoi ? Parce que pour les Juifs, une holocauste, c'est une offrande sacrée à l'Éternel, et on ne peut pas estimer que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale a été une offrande d'une bonne odeur à l'Éternel. C'est pourquoi on ne parle pas d'holocauste, on va parler de Shoah, de destruction. Eh bien, alors que j'étais là-bas, j'ai réalisé à quel point ce peuple a constamment était poursuivi avec une visée, sa destruction. Mais la destruction n'est pas forcément toujours une destruction massive comme celle des années de guerre passées. La destruction peut se faire également par l'assimilation. Et voyez-vous, Pharaon avait un plan d'assimilation. Regardez ce qu'il demande aux sages-femmes des Hébreux. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux. L'une se nommait Chifra et l'autre Poua. C'est joli, hein? Non, je sais que quelques-unes sont enceintes parmi nous et voilà une idée de nom de fille, Poua. Dominique, tu t'imagines? Poua, Peter Schmidt. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, qu'elle vive. Destruction par l'assimilation. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Nous savons la suite, les sages-femmes, eh bien, ne firent pas ce que Pharaon avait ordonné, et Dieu les bénit à cause de cela. À cette époque-là, Dieu va susciter un homme pour ce peuple, pour, eh bien, cette nation captive, cet homme. Son nom, Moïse. Tout le monde ici présent connaît son histoire et certainement nos téléspectateurs également. Il l'envoie avec un message et lui dit la chose suivante. Exode 7, verset 16. « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. » Le Pharaon va successivement refuser l'appel que lui lance Moïse, laisse aller mon peuple. Et à chaque refus correspondra une plaie qui frappera l'Égypte. Alors que nous étions à Jérusalem avant de revenir la semaine dernière, mon frère Elbaz parlait sur le sujet en nous rappelant que chaque plaie qui a frappé l'Égypte correspondait à un dieu des Égyptiens qu'ils adoraient. Remarquez le texte. Il est dit dans Exode 12:12, « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi, j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. » Et vous pouvez vérifier, à chaque plaie correspond un dieu égyptien. La plaie des grenouilles avait visé un dieu qui avait une tête de grenouille et qui était censé protéger l'Égypte des grenouilles. Mes amis, rien n'est jamais fait au hasard. Cette dernière plaie verra les Égyptiens être frappés dans leur chair puisque malheureusement chaque premier-né mourra, ceci des hommes, jusqu'aux animaux. Et c'est cette nuit-là que sera instaurée la Pâque et que Dieu demandera au peuple juif de la perpétuer éternellement. Dans Exode 12, 24, vous observerez cela comme une loi pour vous, vos enfants, à perpétuité. Au moment où l'ange passera, l'ange destructeur passera, eh bien, les Israélites étaient dans leur maison. Et ma sœur l'a bien dit tout à l'heure, ils partageaient le repas ensemble qui était fait d'herbes amères, leur rappelant l'amertume de l'esclavage, qui était fait de pain sans levain, qui était fait d'un agneau ou d'un chevreau mâle d'un an qui ne devait avoir aucun défaut, qui avait été auparavant sacrifié, dont le sang avait été versé. Il devait être totalement consumé. Ensuite, que faisaient les Hébreux ? Ils prenaient le sang, le mettaient sur le linteau des portes. À ce moment-là, lorsque la destruction passera, ils seront épargnés de la plaie qui frappera le reste du pays. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous rappeler que nous ne pouvons pas comprendre ce que Jésus a fait si nous ignorons ce que Dieu a fait avec le peuple hébreu. Jésus est fils de Dieu. Jésus est également parfaitement homme. Il a été, tout en étant parfaitement homme, parfaitement Dieu sur la terre. Cependant, un élément que nous oublions fréquemment, Jésus n'a pas seulement été un homme, mais Jésus était juif. Et vous ne pouvez pas, et nous ne pouvons pas ignorer l'histoire juive. Et nous ne pouvons pas ignorer les racines juives de Jésus, car bien des actes qu'il accomplira ont comme origine ses racines juive, sa culture juive et la loi juive. L'Église n'est pas venue en remplacement d'Israël. L'Église est venue et a été greffée sur l'olivier franc. L'Église ne remplace pas le peuple juif. Dieu a un projet pour le peuple d'Israël. Et ce projet n'est pas encore à son terme. Dieu a un projet pour l'Église. Et quand je considère le peuple d'Israël, eh bien je retrouve souvent l'Église. Mes amis, Jésus, lui, va de la même manière, et nous avons là, eh bien, un parallèle. Donner sa vie, par son sang, nous est-il dit, nous sommes purifiés de nos péchés. Le sang de Jésus, sur les linteaux de la porte de mon cœur, est ce qui me préservera pour l'éternité du jugement. Ce n'est par grâce que vous êtes sauvés, dira l'apôtre Paul, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous fait un don. Il s'offre afin que vous et moi, nous ayons la vie en abondance et la vie éternelle. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus dans Jean 1, 35, il dit: le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit: voici l'agneau de Dieu. Et dans Romains, il nous a dit: c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. C'est lui et lui seul. Dis à ton voisin, Jésus seul peut te purifier de tes péchés. Jésus seul. Aucune église ne peut le faire. Cette église ne peut te purifier d'aucun péché. Aucun pasteur ne peut le faire. Non. Le seul qu'il ait accompli, c'est Jésus qui par excellence est l'agneau de Dieu. Et remarquez, le parallèle va jusqu'au bout. Jésus-Christ va venir pendant les fêtes de Pâques juives. Et nous savons que, eh bien, toute sa souffrance va se dérouler pendant ce temps-là. Remarquez, on crucifie Jésus à la sixième heure, c'est-à-dire à 9h du matin. Et vous pouvez le lire dans Marc 15. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. La troisième heure correspond à 9h du matin chez nous. Nouveau, le Christ ressuscité apparaissait en un instant, en un clin d'œil. C'était plus le même. Le chrétien qui a reçu le sang de Christ dans sa vie doit être un homme nouveau, changé. Ce n'est pas la vieille nature qu'il est en train d'essayer d'améliorer. C'est pas une occasion que tu es en train d'essayer de briquer pour la rendre neuve. Non, c'est une nouvelle vie. Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin. Cette nouvelle vie, frère, cette nouvelle vie, sœur, elle commence par une semence. C'est comment une semence ? C'est comme ça. Christine, c'est comme ça. Vous n'avez jamais semé des salades avec des semences pareilles ? Écoutez ce qui est dit dans 1 Pierre 1,23, je lis. Puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire engendrés, enfantés à nouveau. D'ailleurs, en France, c'est courant, c'est « En effet, vous êtes nés de nouveau. » Joseph, « Born again. » C'était lors de l'interview hier. La question nous était posée. Et là, c'est Saint-Pierre qui parle. « En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel. » Mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu, ou grâce à une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Une semence incorruptible. La semence humaine se corrompra un jour dans la terre. Mais la semence d'en haut, qui m'a permis de naître de nouveau, ne se corrompra jamais. Samuel et son corps vieillissent. Je vous assure. Pourtant, j'essaye souvent, quand ma femme rentre dans la salle de bain, j'essaye de faire jeûne. Je suis sûr que tous les hommes se reconnaissent là. Je rentre mon ventre, je... Et puis on discute et je m'oublie. Et dès que je m'oublie, pfff... Kate Vedrolesov. Ouais, je vieillis. Mais dans Samuel, il y a quelque chose qui vieillit pas. Cette semence en haut. Cette vie d'en haut. Papa Jean me dit toujours, moi je suis jeune intérieurement. Maintenant écoutez, la semence, c'est le démarrage, c'est le départ. Quand Dieu a conduit Israël hors d'Égypte, Israël devenait libre. Mais savez-vous que la liberté n'est pas facile à gérer? Être libre, c'est tout d'un coup devoir faire des choix. C'est pas facile de faire des choix. Avez-vous remarqué, les pays qui étaient soumis à des dictateurs, des pays totalitaires, lorsqu'on les délivre du dictateur, très souvent les gens sont perdus. Et voire certains regrettent leur dictateur. C'était tellement plus simple quand tu n'avais pas le choix. Mais maintenant tu as le choix. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Et maintenant nous sommes libres de pécher ou de ne pas pécher. Vous et moi, nous sommes libres. Vous êtes et je suis confronté à des choix. Prenons l'exemple d'une nouvelle créature. Vous voulez un exemple de nouvelle créature ? Est-ce que vous voulez un exemple biblique de nouvelle créature ? Neuf de chez neuf. Ève. Ève était neuve. Tirée de la côte de l'homme. Et messieurs, remarquez que le Seigneur n'a utilisé qu'une de vos côtes. Certains me posent la question sur le fait d'avoir une deuxième femme, une troisième femme. Si Dieu avait voulu que vous en ayez cinq, il vous aurait enlevé cinq côtes. Non, non, une côte. Je vous l'avais déjà dit, c'est ce petit garçon qui rentre de l'école et puis la maman lui dit « Mais qu'est-ce que t'as ?» Il marche comme ça, il dit « Oh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. » « Mais qu'est-ce que t'as ? Tu t'es cogné ? Non, non, j'ai mal, j'ai mal. » Elle dit « Mais t'as fait du sport ? Non, j'étais au cours de religion, j'ai mal. » « Mais vous vous tapez dessus au cours de religion ? Non, 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 non. Mais je crois qu'il m'arrive quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive ? » Eh bien, la dame là-bas, elle avait dit qu'à Adam, on a pris une côte et je crois qu'on est en train de me faire une femme, moi aussi. Mon frère, ma sœur, ce matin, Ève était une nouvelle créature. Parfaite ! Suivez-moi maintenant dans mon raisonnement. Dans sa liberté, elle était confrontée à des choix. On ne peut pas dire, oui, mais Ève, la pauvre, c'est à cause de son hérédité. C'est les démons. On ne peut pas dire cela. On ne peut pas dire qu'elle avait 10 générations derrière elle qui ont fait qu'elle avait un héritage spirituel lourd, qui l'empêchait de bien choisir. Non, elle était neuve. Mais elle va choisir. Adam va la suivre. Dieu, à aucun moment, ne lui a dit « Ève, je te comprends. Finalement, je t'excuse. Parce que quand je considère ta situation, je dois me rendre compte que c'était pas facile. Le diable a déjà réussi à séduire un tiers des anges. Il m'a mis la zizanie dans le ciel. Je peux comprendre qu'il t'ait séduite. » Rien de tout ça. Il a jugé Ève et Adam responsables de leurs actes. Aujourd'hui, nous sommes dans une société totalement déresponsabilisée. C'est plus nous qui faisons des fautes, c'est toujours les autres. Quand vous écoutez, j'ai brûlé la voiture, mais c'est pas moi. C'est parce que la société est mauvaise. J'ai frappé ma femme, mais c'est pas de ma faute, c'est de la sienne à elle. Si je bois, c'est pour l'oublier. On a interviewé un jour un homme en lui disant « Pourquoi vous buvez ?» Il disait « C'est pour oublier ma femme. » Il disait « Ça marche ?» Non, quand je rentre, j'en vois deux. Ça marche pas. C'est toujours les autres. Et notre société française traduit cela très bien, et nous en faisons partie, et nous-mêmes nous le traduisons. C'est toujours les autres. Non, non, Dieu dit pas « Je te comprends ?» Dieu dit « Adam, coupable. Ève, coupable. » Au milieu du peuple de Dieu, vous savez ce que j'attends ? Frère, oui, vous savez, j'ai péché, mais c'est pas moi. C'est à cause de mon hérédité. C'est pas moi, c'est à cause des démons, c'est pas moi, c'est à cause des liens qui n'ont pas été coupés. Où est-ce que c'est marqué dans la Bible ? Moi, j'aimerais te dire que la Bible me dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Il est venu pour te libérer. Et tu n'es que lié dans la mesure où tu ne vis pas pleinement la vie nouvelle qu'il te donne. Mais tu as des choix à faire et tu ne peux pas accuser les autres. Maintenant, permettez-moi de continuer. Et j'irai vers ma conclusion. La nouvelle nature, confrontée à des choix, mais elle demande également des soins et du travail. Jésus nous donne une parabole, celle du semeur. Vous souvenez-vous de cette parabole ? Elle m'a posé problème pendant longtemps. Je vais vous dire pourquoi. Il est dit qu'un semeur sortit pour semer sa semence. Nous avons reçu la semence incorruptible de la parole de Dieu dans nos vies, la semence éternelle. Bien. Ce qu'elle engendre en nous, c'est l'éternité si nous savons obéir et suivre ce qu'elle nous enseigne. Cependant, il est parlé de quatre terrains. Vous souvenez-vous de cela ? Permettez-moi de résumer. Je ne parlerai pas des trois premiers terrains. Je voudrais parler du quatrième qui m'a toujours posé problème. Il est dit tout d'un coup qu'une partie de la semence tomba dans une bonne terre qui porta du fruit, 100 pour un grain, 70 pour un autre, 30 pour un autre. Et je me disais, mais waouh, ça veut dire qu'il y a des humains qui sont des bonnes terres, d'autres, de toute façon, ils ont des ronces, les troisièmes, eux, c'est une terre peu profonde, et les quatrièmes, c'est ceux qui sont au bord du chemin, ils entendent et les oiseaux viennent enlever la semence. Et cette histoire de bonne terre me préoccupait jusqu'au jour où c'est comme si l'esprit m'interpellait. Et il me disait, mais est-ce que toi tu connais une bonne terre dans laquelle, en jetant une semence, il n'y a que la bonne semence qui pousse ? J'ai dit, non, ça doit être au paradis, mais pas ici. Hein. Ici, si tu t'en occupes pas, il n'y a pas de radis. Et la pensée revient. Qu'est-ce que ça veut dire alors ? S'il n'existe pas une terre dans laquelle, en jetant une semence, il n'y a que la bonne semence qui pousse, qu'est-ce que ça implique ? J'ai dit, écoute Seigneur, moi mon père m'a appris à aller au jardin et je devais lui aider à rendre la terre bonne. Je devais lui aider à enlever les pierres. Je devais lui aider à désherber. Qui sait ce que veut dire désherber ? Ah oui. Baissez-moi vos mains. Parmi les jeunes, qui sait ce que veut dire désherber ? Je ne suis pas sûr que tous. Eh bien, c'est très bien. Je suis fier de... Josué, baisse ta main. Alors, baisse ta main, hein ? C'est mon fils, lui. Ah ouais. Pour que la terre soit bonne, il faut que la terre soit entretenue. Mon frère, ma sœur, la bonne terre dans laquelle la semence tombe dans la parabole de Christ, c'est une terre dans laquelle et de laquelle celui qui en est propriétaire en prend soin. Il en arrache les mauvaises herbes. Il ne laisse pas de place au péché. Il ne laisse pas de place à l'impureté. Il ne laisse pas de place à tout ce qui est contre la gloire de Dieu. Il l'enlève. Mais alors j'ai découvert quelque chose quand j'étais gosse. C'est que quand les salades avaient une certaine taille, plus elles grandissaient, moins la mauvaise herbe poussait. Hello! Plus les laitues avaient des grandes feuilles, moins la mauvaise herbe n'avait de capacité de l'étouffer. Ce matin, plus tu vis la vie nouvelle, moins le péché n'a d'emprise sur toi. Plus tu avances avec Christ, plus Christ grandit en toi, moins tu es de lutte et de combat. Plus tu rayonnes, plus la gloire de Dieu se manifeste. Désherber, c'est pas facile. C'est fou, les mauvaises herbes, c'est le seul truc que vous n'avez pas besoin de semer. Vous avez remarqué? Hein? Mais c'est moche, c'est toujours comme ça dans la vie. Hein? Jean-Marie, moi quand je te regarde, toi, c'est ce que... Vous m'avez pas laissé finir. Je vois en toi une belle plante. Mais qui, je suis sûr, a dû désherber? J'ai dû désherber, j'ai dû enlever. C'est ce que la parole appelle la sanctification. Est-ce que le terme sanctification pourrait être à nouveau à l'ordre du jour dans les églises en France? Est-ce que dans ma vie, dans ta vie, dans nos familles, le terme sanctification pourrait être mis à l'honneur? Sanctification, en d'autres mots, mise à part pour un service sacré. Mise à part signifie que je refuse d'autres choses, je fais des choix. Ève, à un moment donné, malheureusement, a choisi une voie. Cependant, la Bible nous dit, si le premier Adam a échoué, le second, lui, il a triomphé. J'arrive à ma conclusion. Conséquence d'une vie nouvelle. Je vous donne juste une image, ça permettra d'aller plus vite. Si je considère que mon ancienne nature était du bois, imaginez que je sois en bois. Ouais, c'est ce que ma femme me dit parfois, Holzkopf. Qui a applaudi? Suzala? Non? Ah! Bien. Vous savez que le bois ne conduit pas le courant. Qui c'est ça? Le bois sec? Le bois sec, c'est un isolant. Il ne conduira jamais le courant. Vous pouvez mettre votre balai à... Vous pouvez mettre le manche à balai dans la prise, vous risquez rien de l'autre côté. Si, Dominique, essaye, voir. Vous risquez rien. Parce que la nature du bois n'est pas une nature qui peut conduire le courant électrique. Par contre, remplacez votre balai en bois, votre manche en bois, par un manche en cuivre. Mettez-le dans la prise. Et soudain, vous aurez une onction que vous n'oublierez jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que plus la vie nouvelle prend place en moi, plus le Saint-Esprit peut travailler au travers de moi. Plus ma vieille nature est présente, plus elle oppose de résistance au Saint-Esprit. Veux-tu devenir un canal de bénédiction pour les autres? À gauche, oui. Là, je sais pas trop. Et puis alors à droite, ils sont déjà en train de manger le gigot, là. Est-ce que tu veux être un canal de bénédiction? Alors vis la vie nouvelle. Tu n'es plus l'ancienne créature, Franz. Tu dois devenir la nouvelle créature. Tu dois être la nouvelle créature. De bois, je deviens du cuivre. De ma vieille nature que j'étais, je deviens une nouvelle nature, ressuscité avec Christ. La vie de Christ est en moi et maintenant je suis le temple du Saint-Esprit. Quand j'impose les mains aux malades, il se passe quelque chose. Quand je mets la main sur quelqu'un qui est possédé, il se passe quelque chose. Les démons ne se posent pas la question, pourquoi ils lui grattent les cheveux? Tout d'un coup, les démons tremblent parce qu'il y a la sainteté, il y a l'autorité de Dieu. Il y a la vie de Dieu en nous. Mon frère, ma sœur, Cela vaut la peine, je vous l'avais dit un jour. J'arrive en Suisse. J'aime beaucoup les amis suisses, allemands aussi par ailleurs. Et ici, vous n'êtes pas en danger, hein, parce que normalement, on mange les petits Suisses en France, mais... Et j'arrive donc dans un institut biblique. Je sors de la voiture. À peine je suis sorti, il y a un jeune homme qui vient vers moi et me dit « Je veux vous parler ». Je dis « Oui, pas de problème, mais tu vois, je viens d'arriver, je voudrais juste poser mes valises ». Et puis, on me montre ma chambre, je pose mes valises et il était tout le temps avec moi, derrière moi, « Je veux vous parler, je veux vous... » Oh. Alors je lui dis « Écoute, comme je savais que les étudiants avaient des responsables, je lui dis « Moi je te propose demain, ça me permet de bien prendre mes marques, et puis tu viens avec ton responsable ». Le lendemain, j'ai rendez-vous avec lui. Il arrive, je lui dis « Bien, enfin, on a le rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux me dire ?»« Eh bien, je voulais vous dire que vous m'énervez !» Pour me dire ça, il n'y a pas besoin d'un rendez-vous. Hein. Il dit « Je ne sais pas si vous faites plus pasteur qu'un autre, mais vous m'énervez. » Je ne sais pas ce que ça veut dire faire plus pasteur par ailleurs. Hein. C'est peut-être mon nez. J'étais abasourdi, je me dis, mais qu'est-ce qui peut emmener un jeune gars comme ça, qui a, comme ça, au demeurant, il était sympa, mais là, franchement, il était devenu désagréable. Et tout d'un coup, je lui dis, mais dis-moi, pour toi, qui est Jésus ? Et là, une insulte. Étudiant dans une école biblique. Mais il insulte Jésus. À ce moment-là, j'ai dit, ah, je comprends qui j'énerve. C'est pas toi que j'énerve, c'est quelqu'un d'autre. Viens là. Au moment où on lui a mis les mains dessus, l'énervement s'est manifesté plus encore. Et là, tout d'un coup, un esprit méchant est parti et ce jeune homme a été libéré. Par la suite, il ne m'a plus lâché. Mais où que j'aille prêcher en Suisse, chaque fois que j'étais là, dans une salle, il disait « Ouh !» Hello boy. Plus tu laisses place au Christ en toi, plus la vie de Christ coule au travers de toi. Et il nous a fait une promesse, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.